Donc je vous propose de lire donc la suite, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Et je lirai jusqu'au verset 5, verset 20. Marc chapitre 34, chapitre 4, à partir du verset 35. Je lirai donc Marc 34, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans sa barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte, si on se plonge dedans, qui nous parle beaucoup de peur. Alors, je n'ai pas fait exprès avec le thème de dimanche prochain. Il se trouve que le thème de ce texte, en tout cas, quelque chose qui ressort souvent, c'est la peur. Et ce qui ressort de ce texte, c'est cette vérité que, eh bien, connaître Jésus, la connaissance du Fils de Dieu, entraîne la peur chez les uns et rassure les autres. La connaissance de Jésus, Fils de Dieu, effraie les uns et rassure les autres, le même Jésus. Et c'est ce que nous allons voir. Premièrement, on va voir, eh bien, ceux qui ont eu peur. On va étudier de plus près la peur des disciples déjà, puis la peur des démons, la peur qu'ont le démon de Jésus, puis la peur des habitants de la contrée. Et enfin, nous verrons que l'amour chasse la peur et rassure. L'amour chasse la peur et rassure. Premièrement, étudions de plus près la peur des disciples, parce qu'ils ont eu peur. Donc, Jésus a eu une journée bien remplie. Cette journée, il a effectivement prêché en parabole, et devant les foules, il a prêché aux foules. Une journée bien remplie et une journée fatigante, donc qui se termine. Jésus, donc, veut passer sur l'autre rive. Il décide de regagner l'autre rive sur une barque avec ses disciples. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, voici qu'une tempête surgit sur le lac. Jésus dort. Et les disciples, face à la tempête, eh bien, ils ont peur. Et qu'attendaient les disciples de Jésus face à la tempête? Ils attendaient quelque chose de lui. Et certainement qu'ils attendaient qu'il prie le Père, puisque Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Qu'il prie le Père pour qu'il calme la tempête. Ou bien qu'il, s'il permettait que la barque bascule, qu'il les sauve du naufrage. Mais il ne s'attendait certainement pas à ce qui allait se passer. Et voyant Jésus dormir paisiblement à l'avant de la barque, et qui plus est sur un oreiller, vous avez remarqué le détail, il dormait sur un oreiller qui devait être bien douillé. Jésus, vraiment, on t'imagine la scène. Eh bien, les disciples l'ont réveillé en lui faisant des reproches de ne pas se soucier de leur sort. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus se lève et dise cette parole « Silence, tais-toi !» en s'adressant aux éléments, à la mer, au vent, à la tempête. Les disciples ne s'attendaient certainement pas à ce que cette parole de Jésus fasse autant d'effet sur les éléments, sur la tempête. Au point que, eh bien, ils ont eu peur. Alors d'abord, ils ont eu peur de la tempête. Ensuite, ils ont eu peur de Jésus. Ce Jésus qui, peut-être qu'ils croyaient connaître, mais au fond, qu'ils ne connaissaient pas si bien que ça. Ils connaissaient bien le Jésus avec ses besoins physiques. Jésus avait aussi besoin de se reposer. Et il dormait dans la barque. Après une dure journée. Mais là, ils ne connaissaient pas encore ce Jésus, capable de calmer les éléments. Capable de calmer les éléments, comment? Par une simple parole. Montrant par là, eh bien, qu'il est le créateur de ces éléments. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Par sa parole. Eh bien, Jésus, en ayant autorité, en ayant contrôle sur les éléments, montre qu'il est Dieu qui a lui-même créé le monde. Et il y avait de quoi effectivement effrayer les disciples qui ne connaissaient pas Jésus sous cet angle. Oui, la parole de Jésus fait autorité comme étant la parole de Dieu. Cette parole qui peut germer dans les cœurs, cette parole sur laquelle Jésus venait d'enseigner dans la journée, il venait d'enseigner en parabole. Cette parole qui peut germer, cette parole qui est puissante. Et là, il en fait la démonstration. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, je pense que tout le monde sera d'accord. Est-ce que vous traversez des tempêtes dans votre vie? Et si oui, nous en traversons tous, n'est-ce pas? Comment réagissons-nous face aux tempêtes dans notre vie? Eh bien, on a beaucoup à retirer de ce récit. Ce récit nous montre plusieurs choses. Premièrement, eh bien, Dieu permet les tempêtes. Aussi bien les tempêtes météorologiques, comme celle qui a eu lieu à La Réunion, dans l'île de La Réunion, que des tempêtes qui bouleversent parfois notre tranquillité, dont on se serait bien passé, dans les différents domaines de notre vie, que ce soit familial, professionnel ou autre. Donc, premièrement, que Dieu permet les tempêtes. Deuxièmement, nous apprenons quoi? Que Jésus, il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Il est non seulement capable de guérir les malades, ce qu'il a fait précédemment, il est non seulement capable de chasser les démons, ce qu'il a fait précédemment, ce qu'il va refaire, mais il démontre ici qu'il est le créateur du ciel et de la terre, capable d'en maîtriser les éléments. Alors il est bien capable de calmer aussi les tempêtes dans notre vie. Ce récit nous apprend troisièmement que pour calmer les tempêtes, il faut faire rentrer Jésus dans la barque de notre vie, qu'on soit chrétien ou pas. Là, Jésus était dans la barque. Vous avez remarqué le verset 36? Après avoir renvoyé la foule, ils, donc les disciples, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils emmenèrent Jésus avec eux dans la barque. Alors, si vous êtes chrétien, c'est une exhortation pour nous tous, hein, à emmener Jésus avec nous dans toutes nos décisions, où que nous allions, sachant qu'il peut nous conduire parfois à passer sur l'autre rive que nous ne connaissons pas forcément. Là, on était dans un pays qui n'était pas tout à fait... c'était plus en Judée. Il y avait donc des non-juifs. Il peut nous conduire parfois dans un environnement hostile qu'on ne connaît pas forcément Et c'est le cas, puisque la suite du récit nous montre effectivement que c'était un environnement hostile, on peut dire. Que nous soyons chrétiens. Mais s'il y en a qui ne sont pas chrétiens, eh bien vous pouvez faire rentrer Jésus dans la barque de votre vie, en vous repentant de vos péchés et en croyant qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour vous les pardonner et faire de vous un enfant de Dieu. Quatrièmement, ce récit nous apprend que même si les tempêtes peuvent être effrayantes, et quand on regarde la situation du monde, il y a de quoi avoir peur parfois. Mais ce récit nous apprend que même si les tempêtes peuvent être effrayantes, même menaçantes, et Jésus, qui est présent là, l'image de Jésus dormant sur un oreiller pendant la tempête, Jésus peut nous donner sa paix en toutes circonstances. En toutes circonstances, même au milieu des pires tempêtes. Précédemment, Jésus avait dit, dans la parabole du semeur, au verset 27, en 4 verset 27, il avait dit ceci, « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Jésus est en train de dormir là. Et Jésus illustre ce qu'il venait de dire là, dans ce verset. « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Les disciples n'avaient pas à avoir peur. Parce que même en dormant, Jésus veillait sur eux. Même en dormant, Jésus veillait sur eux. Et sur la semence qu'il avait plantée en eux et qui a commencé à germer en eux. En leur donnant une meilleure connaissance de qui il est, c'est-à-dire le Créateur, capable de calmer la tempête. Est-ce que vous avez parfois l'impression que Jésus dort, qu'il ne répond pas à vos prières, comme c'était le cas des disciples ? Seigneur, ça ne fait rien que nous périssions, réveille-toi ! Et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe. Jésus travaille dans nos vies. On peut avoir l'impression que Jésus ne répond pas à nos prières, qu'il dort, mais il continue son travail en nous. Parfois au milieu des épreuves qu'il permet, et parfois même à notre insu sans qu'on s'en rende compte. Et alors, eh bien, il remplace l'image du Jésus qu'on s'est fait par qui il est vraiment, c'est-à-dire à la fois homme parfait et Dieu tout-puissant. Et on le connaît mieux. Jésus fait un reproche aux disciples, il reproche aux disciples d'avoir eu peur de la tempête par leur manque de foi. Ils ont eu peur, les disciples, peur de la tempête. Et ensuite, ils ont une autre peur. Ils ont eu peur de ce Jésus qu'ils ont en face de lui, qu'ils n'ont jamais vu avec. Ils ne l'ont jamais vu calmer les éléments, calmer la création. Ils ont eu peur de Jésus, qu'ils croyaient connaître. Mais cette peur de Dieu, elle est salutaire. Contrairement à la peur de la tempête. La peur de Dieu, elle est salutaire parce que c'est cette peur qui va nous rendre capables de vaincre nos autres peurs. La peur du Seigneur. Oui, la connaissance de Jésus, Fils de Dieu, effraie les uns et rassure les autres. Deuxièmement, étudions la peur qu'ont eu les démons de Jésus cette fois, dans ce qui suit. Les voilà donc arrivés sur l'autre rive, Jésus débarque. Et là, eh bien, un homme. Voici que surgit un homme qui mène une vie misérable. Loin de sa famille, il habite dans un cimetière. Il ne trouvant pas de repos parce qu'il est tourmenté nuit et jour par des démons. Il se mutile, il crie. Il devait semer la terreur auprès des habitants du pays qui avaient bien essayé de le maîtriser, de lui mettre des fers aux pieds, de lui mettre des chaînes, mais... Il arrivait à chaque fois à se délivrer. Et ce récit nous montre la réalité d'un monde spirituel mauvais que notre société veut ignorer. On est au 21e siècle, on ne croit plus en ces choses-là. Non, ce sont bien des choses bien réelles, ce monde des ténèbres. Les démons qui tourmentent les hommes, qui se mutilent, qui crient, qui sont hystériques. Il y a des causes spirituelles. Que se passe-t-il ? Étudions la scène de près. Quand le démoniaque fit débarquer Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Il le voit de loin, nous dit le texte. Il le reconnaît, et il va aussi reconnaître son autorité. Il n'a pas fui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'a pas fui loin de Jésus, mais aussitôt, nous dit le texte, il a couru vers lui pour le supplier. Verset 7. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voilà ce qui sort de la bouche de ce démoniaque. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Cette formule. Je vais y revenir. Cet homme, c'est un personnage qui est double. Il est double. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît et il confesse même Jésus comme fils de Dieu. Tout démoniaque qu'il est. C'est frappant. Il se prosterne même comme signe d'adoration. Mais en même temps, il est plein de haine, plein de méfiance et de crainte. Il veut rester dans son état. Pourquoi ? Parce qu'il est habité et il est lié par ses démons. Alors là, c'est confus. On ne sait pas trop qui est-ce qui parle là. Si c'est l'homme ou si c'est le démon qui l'habite. Jésus va montrer à qui il s'adresse. En réponse à cette supplication, c'est frappant parce que cette supplication, on aurait pu la trouver dans la bouche d'exorciste. Au nom, je t'en conjure, au nom de Dieu. Mais là, ce sont les démons, enfin l'homme lui-même, qui dit cette formule. Je le redis, verset 7, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En réponse, eh bien, et très probablement, pour lui faire prendre conscience que cet homme, il faut le différencier de ses démons, eh bien, Jésus va s'adresser aux démons, très clairement, en leur disant « Sors de cet homme !» Et il va poser la question « Quel est ton nom ?» Pour enlever la confusion. Jésus s'est adressé aux démons et ensuite il pose la question, mais là on ne sait pas trop à qui la question. Quel est ton nom ? Confusion, confusion manifeste chez l'homme. Parce que tantôt il parle de lui avec je, avec le je, tantôt il dit nous. Et la réponse qui est donnée ici, c'est très clairement, ce n'est pas la réponse de l'homme, c'est la réponse des démons. Que répond-il à la question de Jésus, quel est ton nom ? Ils répondent Légion. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nombreux. Et effectivement, une légion romaine, ça pouvait compter quelques 6000 soldats romains. 6000 soldats. Alors, pour ne pas être punis immédiatement, les démons supplient Jésus de les laisser aller dans les pourceaux. Et Jésus va le leur permettre. Ces démons vont aller dans 2000 pourceaux. Que vont-ils faire ? Ils vont se jeter du haut de la falaise, dans la mer, où ils se noient. L'homme, il a été témoin de cette scène. Et la confusion a dû partir. Le Seigneur a permis aux démons d'aller dans les pourceaux pour montrer à l'homme que ces démons l'avaient quitté. L'homme a été témoin de cette scène. Et il a dû comprendre que ces démons l'avaient quitté. Jésus voulait affermir la foi de cet homme. Alors bien sûr, ça a coûté 2000 pourceaux, un troupeau de 2000 porcs. Les propriétaires n'ont pas dû être contents de cela. Mais si on regarde bien, Jésus n'a jamais commandé ni aux démons, ni aux pourceaux de se jeter du haut de la falaise. Il a simplement permis aux démons d'aller dans le pourceau. Cet homme a subi un miracle, le miracle de la transformation. Une libération, une délivrance. Il n'est plus agité, il n'est plus nu, ni furieux, mais il est assis, vêtu et dans son bon sens, nous dit le texte. Si l'homme était assez fort pour briser ses chaînes et ses fers aux pieds, il restait enchaîné de Satan. Il était assez fort, vous imaginez, briser ses chaînes aux pieds, ses fers aux pieds, ses chaînes. Pourquoi ? Il a d'où lui venait cette force de Satan. Mais Jésus est tout puissant et il a brisé toutes ses chaînes qui le retenaient prisonnier. La principale étant celle de Satan. Jésus a remplacé l'orgueil, la fureur, l'hystérie, l'agitation par la paix, le calme, la sérénité, le bien-être. La paix, le calme, la sérénité, le bien-être, est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde recherche à notre époque, dans notre société ? Et là, eh bien, il y a beaucoup de candidats pour offrir cette paix, ce calme, cette sérénité, beaucoup de fausses religions orientales proposent cela aux gens, parce qu'ils ont bien compris que les gens aspirent à ça. De plus en plus de gens sont attirés par des religions, ces religions orientales, sophrologie, yoga. Alors bien sûr, ils ont une apparence de respectabilité, de bienveillance, de vouloir le bien des personnes. Mais derrière, ça cache des pratiques occultes. Récemment, il y a eu ce prêtre catholique qui a témoigné à Figeac dans plusieurs conférences. Et lui-même avait été, dans son témoignage, il disait avoir été délivré de l'occultisme. Il avait donné un témoignage. Et je crois que sa délivrance était réelle. Il parlait de ce qu'il avait vécu. Et il parlait justement de ses pratiques orientales. Alors, dans tout son exposé, on pouvait ne pas être d'accord sur tout. Hein. N'empêche qu'il disait son témoignage là. Et il disait bien que ces pratiques cachent derrière des pratiques occultes. Et c'est mieux pour attirer les gens à ces pratiques-là. Le point commun entre toutes ces pratiques aujourd'hui, hein, qu'on trouve beaucoup, qui sont répandues aujourd'hui, que ce soit yoga, sophrologie et tant d'autres, c'est que l'homme essaye d'atteindre la sérénité et la paix par lui-même. Tout le monde aspire à être en paix avec le stress de notre société aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre problème au XXIe siècle, c'est pas l'athéisme, comme on pourrait le croire. C'est pas que les gens ne croient plus en Dieu, mais c'est que les gens, ils croient, ils ont la foi. Mais ils ont la foi en tout et n'importe quoi. C'est ça notre problème au XXIe siècle, à l'homme du XXIe siècle en tout cas. Le problème de l'homme du XXIe siècle, c'est qu'il a la foi, mais il a la foi à tout et n'importe quoi. Il peut croire n'importe qui va bien se remplir les poches. Les charlatans sur Internet, il y en a beaucoup, et auxquels beaucoup de gens croient et dépensent beaucoup d'argent pour essayer de trouver cette paix. Mais la vraie paix, celle à laquelle tout le monde aspire, elle ne se fabrique pas par quelques techniques, orientales ou pas, elle se reçoit. La vraie paix se reçoit par un cadeau, comme un cadeau d'en haut. Seul Jésus, le Fils de Dieu, peut donner cette paix. Pourquoi ? Parce que lui-même a accepté de prendre sur lui la fureur de Satan. Il a pris sur lui les cris et l'agitation de la foule qui criait « Crucifie-le ! » Il a pris sur lui notre nudité à la croix pour nous revêtir du vêtement du salut. Et quiconque croit en lui reçoit ainsi la paix. Il la reçoit. La paix qui découle de son pardon. La paix, la vraie paix. Il ne s'agit pas de n'importe quelle paix. Il s'agit de la paix de Jésus. Regardez ce que Jésus dit en Jean 14, verset 27. Magnifique verset, Jean 14, verset 27. Je vous laisse, c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'homme délivré respire cette paix qu'il vient de recevoir de Jésus. Il s'agit de la paix de Jésus, pas de n'importe quelle paix. L'homme est donc délivré. Mais là, que se passe-t-il ? De même que les disciples furent saisis de frayeur en voyant Jésus calmer la tempête sur le lac par sa puissance, eh bien, les habitants sont saisis de frayeur à la vue de l'homme délivré qui lui avait été délivré de sa tempête, de la tempête de ses démons. Encore une frayeur. Et là, eh bien, ces habitants ont peur. Les habitants qui ont été vus, qui ont assisté à la scène. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Eh bien, ils ont peur d'avoir à se séparer de leurs d'autres biens encore. Ils ont déjà perdu 2000 pourceaux. Et donc, ils ont peur de perdre leurs biens. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Ils préfèrent se séparer de Jésus. Jésus n'est pas le bienvenu ici, pour cette scène. Et combien ne veulent pas de Jésus ? Ils ont entendu l'évangile. Combien ne veulent pas de Jésus ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'il ne nuise à leurs affaires. Oui, prends tout, Seigneur. Certains ne sont pas prêts. Pas facile, cette prière. Mais en même temps, ils préfèrent s'attacher à leur bien qu'à s'attacher à Jésus. Alors que Jésus bénit. Il donne aussi. Combien ne veulent pas de Jésus parce qu'ils ont peur qu'il ne nuise à leurs affaires ou qu'il ne nuise à leur plaisir ou à leur statut social. Ah, il est chrétien. Aujourd'hui, être chrétien dans le monde... On a assisté à la conférence de porte ouverte là sur l'index mondial de la persécution de 2024. 365 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Un chrétien sur sept. Aujourd'hui, être chrétien, ça devient de plus en plus dur. Et certains ne veulent pas, en tout cas, qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Alors, eh bien, ils ne veulent pas de lui. Ils ne veulent pas de Jésus. Que fait Jésus quand on ne veut pas de lui? Comme un vrai gentleman, Jésus ne reste pas là où il n'est pas désiré. Il ne reste jamais là où on ne veut pas de lui. Il s'en va. Il ne s'impose pas comme il aurait pu le faire. Il s'en va. Il part, laissant ces gens dans leurs ténèbres, qui préfèrent rester dans leurs ténèbres. Il y a bien d'autres besoins ailleurs. Jésus part. Alors, le récit de ce démoniaque a commencé par le démoniaque. Il se termine aussi par, cette fois, le démoniaque délivré. Il n'est plus démoniaque. Voyons maintenant mon quatrième point. L'amour chasse la peur et rassure. L'amour qui chasse la peur et qui rassure. Jésus est donc allé sur l'autre rive. Et après avoir lu le récit, eh bien, on voit qu'il n'y est pas allé par hasard. Il y est allé pour rencontrer cet homme. Il avait un plan pour cet homme précisément. C'est Jésus qui a pris l'initiative de passer sur l'autre rive. Pourquoi ? Pour aller à la rencontre de cet homme précisément et pour le délivrer de ses démons, par amour pour lui. De même que Jésus nous aime individuellement, comme il a été dit tout à l'heure, il nous aime individuellement, chacun d'entre nous. C'est lui qui est venu nous chercher individuellement. Si nous le connaissons, c'est grâce à lui. On aurait été bien incapable de le trouver par nous-mêmes. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu nous chercher individuellement. Et Jésus, dans cette scène, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'un homme vaut bien plus que 2000 pourceaux. Ce qui n'est pas de l'avis de tout le monde. Les propriétaires prêtaient plus de valeur aux 2000 pourceaux qu'à cet homme délivré. Nous valons plus. Chacun d'entre nous, beaucoup plus que 2000 pourceaux. Jésus a montré, il a montré comme ça, il s'est déplacé à la rencontre de cet homme. Il a aimé cet homme. Qu'est-ce qui se passe? L'amour suscite l'amour. L'amour amorce l'amour. Parce qu'on va, en regardant cet homme, eh bien, l'attitude et la prière de l'homme à Jésus, l'homme délivré, sont complètement à l'opposé des autres gens qui, eux, l'ont supplié de partir. Lui, l'homme, il demande, et le mot veut même dire supplier, il demande, il supplie même à Jésus de rester avec lui. Deux demandes à l'opposé l'une de l'autre. Lui, il a vécu une réelle délivrance. Alors que les autres, on se souvient de la parabole du semeur, les autres, ils ont entendu ce récit. C'était la vérité. Les autres n'ont fait qu'entendre le récit de la délivrance par des témoins oculaires. Alors que lui, cet homme, eh bien, il est la bonne terre de la parabole du semeur. Malgré toutes les apparences, il est la bonne terre. Mais les autres, qui n'ont pas voulu de Jésus, ils représentent quoi? Ils représentent le premier sol de la parabole du semeur. Ils ont entendu un témoignage sur ce qu'a fait Jésus, mais ils ont choisi de continuer leur chemin, préférant leurs affaires au salut. Ils ont regardé à leurs propres intérêts. Alors, les cas de possession démoniaque, oui, ça existe. Mais ça ne touche que quelques-uns. Mais nous tous, nous avons tous besoin d'être délivrés. D'une autre délivrance, celle du péché qui nous a tous atteints. Et la tactique du diable, comme il a fait avec cet homme, c'est d'isoler les gens. C'est de les couper de la société, de les couper du monde, de les couper même parfois de l'Église. Le péché nous isole, nous coupe des autres. Et il nous faut l'identifier. Quand on a tendance à se replier sur soi, à vouloir fuir la communion fraternelle, c'est qu'on ne va pas bien. Mais nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres, plutôt pour nous prier les uns pour les autres. Et porter nos fardeaux les uns les autres. La tactique du diable est d'isoler les enfants de Dieu. Et Jésus, par sa seule puissance, qui est la puissance de sa résurrection, il est ressuscité après sa mort sur la croix. Jésus peut nous délivrer non seulement des influences démoniaques, non seulement de notre péché, mais il peut aussi nous délivrer de nos innombrables péchés et des innombrables problèmes qu'on ne peut pas résoudre seul par nos propres forces? Est-ce que vous, parfois vous avez l'impression de crouler sous vos problèmes? Jésus peut vous en délivrer. L'attitude de cet homme, il s'est attaché à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté lui-même la délivrance. Les autres ne l'avaient pas expérimenté, ils en avaient entendu parler, mais lui, il a expérimenté la vraie délivrance, la délivrance des démons. Qu'est-ce qui se passe quand on expérimente soi-même individuellement le salut? Eh bien, la crainte laisse la place à l'amour. Quand on a vécu soi-même la délivrance de Jésus, quand on a vécu soi-même son pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on s'attache à lui. On s'attache à lui comme un aimant. On ne veut plus le quitter. On s'attache à lui. La crainte laisse la place à l'amour, l'amour qui s'attache parce qu'on a connu personnellement le Fils de Dieu. On l'a connu personnellement comme notre Sauveur. Jésus n'a pas permis à l'homme de rester avec lui, ce qu'il aurait bien voulu. Non, Jésus avait une autre mission pour lui. Il devait plutôt aller témoigner de ce qui lui était arrivé. En commençant par qui? Par les gens de sa propre famille, par sa propre maison. Alors, si vous vous souvenez des récits précédents, d'habitude, Jésus recommandait aux personnes qu'il avait délivrées des démons de garder le silence. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, certainement, parce qu'ici, on n'est plus en Judée. On est au-delà du Jourdain. Et là, dans cette région-là, il y avait la population était mélangée à la fois des juifs et des non-juifs. Les Géraséniens. Les juifs ne faisaient pas paître des porcs. Donc ça ne devait pas être des juifs. Et donc, ici, il n'y avait pas le risque. On ne risquait pas d'exploiter les miracles de Jésus à des fins politiques, comme c'était le risque en Judée. Voilà donc l'homme. Alors, le texte ne lui dit pas, mais Jésus lui a dit d'aller témoigner à sa famille. Imaginez la surprise de la famille en voyant revenir son bien-aimé, cet homme, cette personne. Imaginez la surprise. Cet homme, il le voit rentrer à la maison vêtu, dans son bon sens, calme. Après l'avoir connu comme, on pourrait dire, le fou des tombes, hystérique, forcené. Mais là, le voilà transformé. Alors, forcément, la famille a dû se poser des questions. Pourquoi un tel changement? Pourquoi une telle transformation? Et c'est là qu'il faut ouvrir la bouche. Seul Jésus change les vies par sa puissance, par sa miséricorde. La famille, c'est là où l'évangélisation doit commencer. Ça commence à la maison. Pourquoi? Parce que nos proches nous ont connus avant qu'on connaisse le Seigneur. Et ils peuvent et ils doivent voir la différence entre l'avant et l'après, notre conversion. Alors, l'homme aurait bien aimé rester avec Jésus, mais Jésus lui dit d'aller raconter aux autres ce qu'il a fait pour lui. Raconter ce que Jésus a fait pour nous, c'est aussi être avec Jésus, et croyons qu'il est là, même si nous ne le voyons pas physiquement. C'est aussi être avec Jésus. Si Jésus a demandé à l'homme de témoigner à sa famille, ça ne l'a pas empêché d'aller témoigner bien plus largement à toute la Décapole. La Décapole, ce sont les 10 villes grecques de cette région. Jésus est parti, mais l'homme, il a continué le travail. Et quel travail? À lui tout seul. Tout ça, ça rentrait dans son plan, le plan de Jésus. Voilà comment il a atteint cette région. Il est parti, mais le travail est continué. Qu'il dorme ou qu'il veille, la semence continue. La connaissance de Jésus, Fils de Dieu, effraie les uns et rassure les autres. Tant et si bien, Jésus ne laisse personne indifférent, tant et si bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand on voit tout ce récit? Il y a quelque chose qui est revenu très souvent. Eh bien, tout le monde, je veux dire tous les êtres, aussi bien les hommes que les démons, ont supplié Jésus dans ce récit. Les disciples ont supplié Jésus de les sauver de la tempête. Les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays et de les envoyer dans les pourceaux. Les habitants du pays ont supplié Jésus de quitter leur territoire. L'ancien démoniaque a supplié Jésus de rester avec lui. Une chose est sûre, c'est que Jésus, on peut bien sûr le supplier, mais il est là, avec nous, avec son Église. Il a promis d'être là tous les jours, avec nous, avec son Église, à tous, avec tous ceux qui croient en lui. Amen, je vais prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu as montré, Seigneur, en acte, pas seulement en parole, mais en acte, qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, capable de maîtriser les pires tempêtes et aussi les tempêtes dans notre vie. Seigneur, tu les connais, tu connais nos vies à chacun, ce que nous traversons dans notre quotidien, que ce soit au travail, dans la famille, que ce soit ailleurs. Merci parce que tu es Dieu Tout-Puissant, capable de calmer les tempêtes. Tu peux nous donner ta paix surnaturelle en toutes circonstances. Et nous te demandons, Seigneur, cette paix, ta paix, par n'importe laquelle, c'est ta paix que tu nous donnes, Seigneur. Nous te la demandons dans notre quotidien, dans la semaine qui vient. Nous te remercions parce que tu es fidèle, tu nous la donnes, Seigneur. Tu nous donnes la joie, la paix, indépendamment des circonstances. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant. Chasse aussi toute mauvaise influence, Seigneur, dans notre vie. Que nous soyons pleinement à toi, Seigneur, dans nos pensées, nos paroles, nos décisions. Et Seigneur, que vraiment nous ayons ce réflexe de toujours regarder à toi en toutes circonstances, Seigneur. Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, Seigneur. Merci parce que ta grâce est là, Seigneur. Tu es là tous les jours, Seigneur. Tu n'as pas attendu qu'on soit meilleur. Tu es là. Merci, Père. Je te bénis et je te prie d'être avec nous chaque jour, Seigneur, comme tu l'as promis. En Jésus-Christ. Amen.